une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce soir, nous sommes avec Ezila. Bonjour à toi.
Bonjour Rémi.
Donc, tu fais partie de la cuvée grenobloise de cette année 2024. Tu es chanteuse, flûtiste, percussionniste, pianiste. Tu composes toi-même tes morceaux. Tu as aussi monté une association pour encourager les femmes à se professionnaliser dans la musique. Mmh. Est-ce que tu peux compléter ton CV ou ça va?
Ben ça va, je pense.
Il est assez complet.
Oui, ben j'enseigne un petit peu aussi à côté. Je fais pas mal de, du coup d'action culturelle. Mais je pense qu'on va en parler. Donc essentiellement, c'est ça. Ouais.
Je te propose de rentrer direct dans l'ambiance et on va écouter quand le brouillard m'encerclera.
Très bien.
Encerclera, que la foudre tombera, alors je me prendrai dans les bras, alors je serai une mère pour moi, et quand je me tromperai de chemin, sera pesant, que je brûlerai pour des absents. Alors j'aimerai mon corps ardent. Alors je deviendrai mon amant. Mon amant. Mon amant.
C'était « Quand le brouillard m'encerclera » de Ezila. Mmh. Comment le projet est né?
Il est né... En fait, ça fait plusieurs années que j'écris. J'avais un groupe avant le Covid qui s'appelait Soi. Et ensuite, il y a le Covid. On a sorti notre album en plein dans cette période. Ça a fait un flop. J'étais un peu déçue. Et puis, j'ai eu un peu des peines de cœur. Et puis, ça a été un des trucs pour me ressaisir, en fait, et pour me rediriger mon énergie, de monter un solo et de voir de quoi j'étais capable en repartant vraiment d'une page blanche. Et donc, c'est né comme ça. C'est né après le Covid, en
2021.
Ouais, en fait, c'était début 2022. Ouais. Et très peu de temps après, j'ai été accompagnée en fait par les abattoirs. Donc, ça m'a permis vraiment d'être à fond dedans là, pendant un an et demi et d'avancer. Et maintenant, donc, ce qui arrive, c'est la version trio.
Ouais, donc l'idée, c'était un rebond après
ton
groupe.
Un rebond et aussi une envie de voir vraiment où est-ce que je pouvais aller si j'assumais de faire pas mal d'instruments seuls. Ça fait longtemps que je fais du piano et j'avais jamais joué vraiment scéniquement du piano. Enfin, donc je composais, mais en fait c'était jamais moi qui faisais vraiment mes musiques, je chantais par-dessus. Et en fait c'était assumer les différents instruments, assumer une technique aussi, ça a été très challengeant. Voilà, et maintenant c'est bon, j'ai bien assumé, c'est quand même cool de revenir en trio.
Parce que la musique, ça a commencé comment pour toi ?
Ça a commencé très jeune, vers mes 9 ans, je suis native de Grenoble, je suis née à Échirolles et ensuite j'ai grandi à Cessinet puis à Cessin. Et donc je suis allée prendre des cours de flûte traversière à l'école de musique de Cessin. Et je faisais aussi l'orchestre et puis très vite j'ai fait du chant. Donc j'ai fait du chant lyrique pour commencer, je savais pas trop, mais en fait j'avais une prof de chant lyrique, elle m'a appris ça, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup développé les aigus. Toute mon adolescence j'ai eu des groupes, j'ai eu des groupes de rock, j'ai fait même du métal mélodique, chant lyrique, j'ai fait énormément de choses, pas mal de chansons toujours. L'envie de composer chez moi.
T'as baigné vraiment dans la musique depuis tout petit, tes parents étaient musiciens?
Pas du tout, zéro musicien dans ma famille, ouais. Même zéro artiste. Enfin, il y avait quelques petites pratiques isolées, mais pas du tout de transmission, pas du tout. Enfin, j'entends des fois des familles qui ont ce truc de quand ils se revoient, ils font de la musique ensemble, et ça me fait trop rêver, comme dans le film Captain Fantastic, où à un moment ils prennent tous leurs instruments, ils jouent, et vraiment ça me fait rêver, et si un jour j'ai une famille, j'aimerais recréer ça. Mais j'ai pas du tout grandi dans cet univers-là. Après, je sais que mon grand-père écoutait beaucoup de jazz. Donc voilà, je sais que j'avais un artiste peintre. Mais vraiment, c'est plutôt une famille de dentistes slash ingénieurs, quoi. Du coup, personne n'a bien compris ce que je voulais faire. Mais sur la fin, un peu quand même, quand ils ont vu que ça se concrétisait. Mais voilà.
Tu te souviens d'un petit déclic d'un morceau que tu as écouté, d'un artiste que tu as écouté et qui t'a dit « je veux faire ça ».
Mais c'était un long chemin d'accepter que je voulais faire de la musique et d'en faire mon métier. En fait, ça a toujours été un énorme moyen d'expression pour moi. Donc, je suis venue à la musique par la composition, en fait. Très vite, j'étais en mode, j'invente mes textes et mes musiques. Et c'était, je pense, un moyen de comprendre ce que je vivais, de mettre des mots sur ce que je vivais. Mais en fait, j'ai fait d'autres études, en fait. Je suis partie en communication, j'ai fait d'autres trucs. Enfin, j'ai même bossé au CEA à un moment. Enfin, bon... Je me suis beaucoup égarée et ça a été un long chemin. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'agir sur la place des femmes artistes. Parce que, en fait, c'est le fait de se dire qu'on a une place dans ce monde. Je trouve que c'est dans ce monde de la musique ou même dans un conservatoire, dans un machin, ou à une technique, à la place de la technique, c'est vraiment un processus qui a été très long pour moi, pas du tout évident. Donc j'ai eu évidemment plein d'émois artistiques à plein d'époques de ma vie, et le plus jeune dont je puisse me rappeler, c'est certainement Notre-Dame de Paris, c'est ce qui m'a donné envie de chanter. Voilà, j'écoutais La Monture de Julie Zenati, j'écoutais Belle, et c'était des trucs que je chantais quand j'avais 10-11 ans et que je... Voilà, ça c'était mes premiers émois. Après, il y en a eu plein, parce que c'est une des choses qui m'émeut le plus dans la vie, la musique et la nature aussi. Là, c'est des choses.
On le ressent bien avec Ezila, d'ailleurs, la nature.
Oui, complètement, ouais. Pour moi, c'est indissociable. J'ai mis du temps à assumer aussi de vouloir parler de ce sujet. Je ne me trouve pas très à la mode dans l'idée de parler de ça et d'aborder l'émoi devant la nature. Parce que,
être avant-gardiste.
Mais j'espère qu'on reviendra sur des choses beaucoup plus simples que ce qu'on fait actuellement dans notre monde. Et donc, voilà, moi, j'aime faire de la poésie sur ce qui m'émeut et la nature m'émeut. L'amour m'émeut, les relations humaines, l'injustice m'émeut. Voilà.
C'est beau.
Oui.
Mais il y en a des artistes quand même. Il n'y en a pas assez des artistes qui s'infligent sur ce qui se passe par rapport à la nature.
Mais c'est pas... Et puis, je parle effectivement de ce que je pense, de notre lien au vivant actuellement. Mais en fait, c'est juste aussi... Je parle de la contemplation, en fait. Et c'est vrai que moi, les artistes qui m'ont inspirée, c'est beaucoup des artistes qui sont en lien avec la nature. Il y a beaucoup Björk, Aurora. Il y a des musiques aussi très beaucoup plus simples, avec des instruments traditionnels, des musiques de bal du coin, des musiques... Enfin, voilà, j'aime bien... quand on... C'est un sujet, pour moi.
et si on revient plus à ton projet, donc...
Ouais.
Et passer de solo à trio,
ouais.
Comment elle est venue cette réflexion d'élargir le projet ?
En fait, actuellement, dans la formule solo, y a ce truc qui me confine à une musique un peu calme. Et donc, c'est une de mes énergies, mais en fait, c'est pas du tout la seule. Et les gens sont surpris de me voir, du coup, maintenant, sont surpris de me voir ou de revoir des vidéos de soi avant et de me voir dans une énergie beaucoup plus sauvage, au sens lâcher prise, au sens... Et ça me plaît, et les deux me plaisent. Et j'ai senti que j'étais confinée à un milieu de chansons, du coup. Alors que moi, j'ai envie de balancer du gros son, quoi. Et même si c'est calme, c'est du gros son. Voilà. Donc, pas nécessairement me retrouver aux siestes musicales à chaque fois que je fais quelque chose, parce que pour moi, c'est intense ce que je fais, même si en solo, c'est calme. Après, je suis en train de repenser peut-être mon solo pour amener des éléments électroniques qui me permettraient de transposer un petit peu les productions là, que vous avez entendues, où il y a beaucoup de bruit, et voilà, d'arriver à équilibrer un peu ça. Mais donc, retrouver une énergie de groupe, en fait. Et puis, il y a quelque chose de la charge mentale sur un solo. C'est quand même beaucoup de charge mentale de s'occuper des réglages de 3 instruments. Donc, je travaille avec mon ingé son, c'est trop cool, on est en binôme, mais voilà, c'est... Les yeux sont rivés sur toi constamment. Et c'est pire que quand t'es chanteuse lead ou instrument lead dans un projet, là c'est vraiment, on regarde toutes tes manips, le moindre truc, et tu peux pas te reposer sur quelqu'un d'autre, tu vois, quand il y a des bugs et tout, tout le monde te regarde, non, mais alors comment tu vas gérer ça? Et je crois que j'ai envie aussi de me reposer un petit peu sur les autres, du groupe, d'avoir aussi leur énergie. Il y a des dates qui sont pas faciles à faire, et c'est quand même plus facile quand on est en équipe, en fait, tout simplement. L'avant, l'après, les négociations, les trucs, enfin voilà. Donc, tout ça, quoi. Puis la sympathie, la bonhomie d'être en groupe.
Et puis ça doit stimuler d'avoir plein d'ingrédients
exactement,
à aller chercher ailleurs.
Oui, puis ça ramène des influences complètement. Il y a des influences, il y a des idées. Après, pour l'instant, on crée surtout en binôme. Donc voilà, c'est pas vraiment un groupe où tout le monde à 5 composerait. C'est pas du tout... Voilà, là, on crée. Moi, je crée seul et ensuite, on arrange avec Jérôme. Mais voilà, pour toutes ces raisons, voilà. Mais j'aurais autant de raisons à dire que j'ai aimé et j'aime être en solo. Donc pour moi, c'est complémentaire. Et puis ça, c'est juste pour pouvoir jouer plus, en fait. Pour pouvoir jouer et sur des grosses scènes et sur des petits lieux intimistes, des théâtres, des choses assises. Voilà, c'est pour...
Et donc, tu as deux singles pour le moment.
Pour le moment.
Dont Sauvage, qu'on écoutera en fin d'émission.
Ouais.
Mais j'ai envie que tu nous en parles quand même un peu, parce que le clip est quand même bien travaillé, il est beau. J'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire derrière.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors oui, le clip de Sauvage. Tout le monde veut savoir où il a été tourné exactement, parce qu'on dirait Grand Nord.
T'es pas obligé de nous dévoiler ça, mais...
Je peux vous dire la montagne, donc c'est en Belledonne. Mais c'est vrai qu'on dirait, on dirait la Laponie, ou enfin, le Grand Nord en pleine tempête de neige. Mais en fait, c'est juste à côté.
Tu as tourné en quelle année ?
Et non, cet hiver. Ouais, ouais.
T'es monté le beau week-end.
Je suis montée, mais exactement. En fait, ça faisait. On avait un mois. On s'est dit, dès qu'il neige et dès qu'il neige beaucoup, on y va. On voulait vraiment de la neige et de la tempête, quoi. Voilà. Et que te dire, c'est un titre que j'ai écrit après avoir fait le sentier en randonnée et bivouac. Après avoir traversé le Stevenson, donc c'est un GR, donc on a mis à peu près 12 jours et ça allait de Alès au Puy-en-Velay, donc à peu près central et du sud, non. Et en fait, c'était hyper bien. Mentalement, ça m'a vraiment mis dans une espèce de transe pendant 12 jours, c'était très agréable. Et en rentrant sur Grenoble, c'était vraiment angoisse. J'avais vraiment une espèce d'angoisse liée à mon lieu de vie, en fait. J'étais dans un endroit où je voyais... À l'époque, je vivais dans un lieu où je voyais même pas la lumière. Enfin, c'était très, c'était vraiment un peu un taudis, quoi. Et donc, du coup, il y avait plein de questionnements qui sortent sur où est-ce que j'ai envie de vivre. Mais bon, comme tout le monde, on cherche toujours à trouver notre confort optimum. Et moi, je crois que mon confort, ce serait un lieu avec une porte qui donne directement sur une forêt déserte, tu vois. Tu ouvres la porte et t'es dans la forêt. Mais bon, ça, il faut le créer, quoi.
Je vois bien, j'aime beaucoup cette idée.
je trouverais ça incroyable, voilà. Et voilà, donc j'ai écrit ce titre à ce moment-là. J'avais envie qu'il y ait à la fois de l'électro, mais aussi des instruments acoustiques. Donc c'est ce qu'on retrouve. Donc on retrouve les ingrédients qui me plaisent beaucoup. Il y a quelques chœurs. Pour le coup, dans celui-là, je joue du baudrin irlandais. Donc c'est cet instrument un peu frotté là sur les refrains. Il y a Mathieu à la batterie électrique, il y a des synthés, mais il y a aussi des petits bouts de flûte. Donc on a vraiment ce mélange électro-acoustique qui pour moi est assez central dans Ezila. C'est une recherche forte. Voilà.
Et tu es venu pas les mains vides.
Je suis venue avec
quelques instruments.
Oui. Donc on a Lyra, c'est ma flûte.
Ok, elle a des noms.
Et on a Madame Baudran, c'est mon tambour.
Trop
et
bien.
Donc, voilà, c'est...
Est-ce que tu es prête pour faire un petit live ?
Tout à fait.
Ce que tu veux,
ouais.
Tu nous en parleras après.
Eh bien écoute, je vais vous faire au tambour et au chant la chanson « Ta violence ». Et c'est le prochain single qu'on enregistre. Donc là, ce sera évidemment une version très acoustique parce que le single sera... On est très orchestré dans les îles quand on arrange, donc ça sera beaucoup plus fourni. Mais je vais vous proposer ça.
Une petite exclue,
single qui normalement sera enregistrée en septembre et sortira et sera clippée aussi. On est en train de préparer tout ça, donc normalement, avant 2025, ça arrive.
On a hâte et place à la musique.
Allez.
J'ai toujours eu un bon odorat et toi je ne te sens pas. Quoi qu'ils en disent, je n'aimerais pas me trouver seule avec toi. Certes, personne n'est parfait, mais moi je sais de quel bois tu es fait. Oh, je la vois derrière toi. En écoutant parler les femmes, j'arrive bien à savoir que tu pourrais te montrer infâme ou bien serrer tes mâchoires, serrer des mains et sourire tout en broyant la main qui veut fuir. Oh, je la vois derrière toi. Je la vois derrière toi. je la vois derrière toi. Ta violence, j'ai toujours eu un bon odorat, et toi je ne te sens pas. Quoi qu'ils en disent, je n'aimerais pas me trouver seule avec toi. Certes, personne n'est parfait, mais moi je sais de quel bois tu es fait. Pour chaque tort que tu causeras, moi j'en réparerai trois. Pour chaque corps que tu profaneras, moi j'en couronnerai trois. Tu répandras tes rumeurs, qu'importe, je dépolluerai leur cœur. Oh, je la vois derrière toi. Oh, je la vois derrière toi. Oh, je la vois derrière toi. Ta violence, puis j'ai regardé un peu plus loin, derrière le mal qui t'étreint. J'ai senti ta rage et ton chagrin, au fond tu n'es qu'un humain. Puisses-tu être arrêté, puisses-tu guérir de tes propres plaies. Oh, je la vois derrière toi. Oh, je la vois derrière toi. Oh, je la vois derrière toi. Ta violence.
Magnifique. Non, bah c'était super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau, de comment tu as écrit le texte ?
Ouais. Alors déjà, il faut s'imaginer qu'il y a un chœur d'hommes très très grave qui m'accompagne. Donc ce qui donne une ambiance
qui sera
légèrement... Ouais, et très grave, voire un grave un peu parfois dérangeant qu'on va un petit peu venir modifier en post-prod, quoi. Et donc il y a une batterie aussi, batterie plus batterie électro, et il y a quelques synthés sur la fin. Voilà, et donc, alors c'était quoi la question ?
Non mais déjà la version acoustique est super cool, et donc
merci.
On a hâte d'écouter les arrangements.
Ouais.
Non, moi je voulais parler un peu de ton écriture,
ouais.
comment ça s'organise, et donc parler un peu de ce texte-là.
Ok. Déjà, j'ai vraiment pensé texte et percussion, pour le coup, en même temps. Souvent, des fois, je passe plutôt direct par le piano, je pense plutôt mélodie, mais là, c'était vraiment mon percu. Et il y a des inspirations trad. Il y a un côté, dans ce ternaire, là. J'avais envie d'écrire une espèce de... Ouais, une espèce de complainte. de toute façon c'est toujours un peu nul d'expliquer son texte, non, je trouve que le texte normalement
pas expliquer, voilà. Le texte, mais juste comment t'en arrives à écrire en règle générale. Donc là tu dis que tu l'as pensé,
ouais.
Avec les percus,
ouais.
Mais en règle générale, est-ce que tu le penses directement en musique, ou des fois tu as envie de parler d'un sujet,
c'est assez variable. Là pour le coup j'avais envie de parler de ce sujet, évidemment, qui touche beaucoup de femmes, qui touche beaucoup de mes amis également, et je voulais le faire d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on entend. Et le dernier couplet est important pour moi, parce que l'idée, c'est pas de dire « Oh là là, tu as tes propres blessures et c'est difficile », mais c'est de dire qu'en fait, la violence, à mon sens en tout cas, la violence se génère par des émotions qui seraient mal exprimées, une incapacité à exprimer en fait ces émotions de colère, de frustration, une incapacité à avoir été écoutée là-dessus, et avoir soi-même subi de la violence, la perpétrer, enfin il y a voilà, plein de choses, et voilà, je voulais parler de ce sujet en parlant de sa complexité également. Je trouve, voilà, c'est ma manière, j'aime aborder des sujets complexes. Enfin, j'aime la complexité des choses. Voilà. Et donc, ben, c'est dur pour moi de répondre à ces questions parce qu'il y a un truc un peu... C'est comme si quand je commençais à réfléchir à un sujet, en fait, mon processus créatif, il commence avant que j'ai vraiment capté qu'il commençait. Okay. Il y a un truc, et puis ça évolue. C'est comme si, à un moment, je me dis, bon, voilà, je vais faire une nouvelle chanson, et en fait, j'ouvre mes écoutilles, tu vois, à tout ce qui se passe. Et je me laisse, voilà, traverser par ce que j'entends, ce que je vois, ce que je... Et des fois, mon sujet de base va complètement évoluer.
Parce que, par exemple, pour le premier single qu'on a écouté, « Quand le brouillard m'encerclera », tu l'as écrit dans
les transition.
Tu l'as écrit dans les chartreuses.
Ouais, je l'ai écrit dans la chartreuse, le massif, non pas... Oui. L'alcool n'est pas vraiment présent dans mon processus créatif, mais ouais, donc bah, celui-là, hein, ouais, cette chanson, la première, là, « Quand le brouillard m'encerclera », a une notion assez symbolique. Bah, d'ailleurs, c'est le premier single que j'ai sorti, c'est pas pour rien, pour moi, il était assez fondateur de Ezila, dans le sens où, comme je te disais, j'avais des petits problèmes de cœur à ce moment-là, et je suis partie, et c'est le premier morceau que j'ai voulu vraiment travailler. C'est là que j'ai senti que ça devenait un solo, et que j'étais en train de réunir mon matériel pour faire. Et donc, bah ouais, j'ai traversé la nuit de mes 30 ans, j'ai voulu traverser la Chartreuse, et enfin pas la nuit de mes 30 ans, mais pour mes 30 ans. Donc la nuit de mes 30 ans, je me suis retrouvée toute seule donc dans ma tente, sous la grêle et sous le tonnerre. Enfin, c'était vraiment des conditions météo épouvantables. Et en même temps, il y a eu un truc où je me suis à la fois sentie très vulnérable à ce moment-là. Et je l'étais à ce moment-là de ma vie, j'étais très vulnérable, même physiquement. Enfin, vraiment, Et en même temps, j'ai senti une espèce de force venir de moi, venir des éléments. Et je trouve que c'est souvent comme ça, la vie. C'est dans les moments où on se sent très vulnérable qu'on peut vraiment sentir nos ressources, aller puiser dans nos ressources, dans notre force. Et c'est comme une lettre d'amour, une lettre d'engagement que je me suis faite à moi-même de ne pas oublier, en fait, d'être toujours une bonne compagne pour moi-même. Voilà, parce que bah, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de certaines personnes qu'on grandit des fois dans un désamour de soi, dans un manque d'estime de soi, dans un manque de confiance. Ça met énormément d'années à cicatriser et à se reconstruire. Et du coup, voilà, j'avais pour espoir que cette chanson porte aussi ce message pour les autres de... Et ben voilà, tu es bien, en fait, tu es bien des personnages. Tu peux être tout ce que tu veux. Et si tu veux trouver un gardien en toi, tu pourras le trouver. Si tu veux trouver un enfant, tu pourras le trouver. Et c'est des fois dur d'accéder à ces états, mais on les a tous en nous, en fait. Et on passe notre temps à vouloir les chercher à l'extérieur, à aller chercher chez les gens, parce que ces gens-là nous ont fait résonner d'une certaine manière, et ils ont révélé quelque chose en nous qu'on n'avait pas vu, et on se dit mais c'est cette personne, mais en fait non, c'est nous, c'est à l'intérieur.
C'est un peu
nous.
La sécurité d'aller chercher
chez les autres,
chez
ouais.
Les autres.
Puis c'est culturel, je crois qu'il y a un truc, voilà, dans d'autres cultures, notamment les cultures indiennes, tout ça, le bouddhisme, le tantrisme, ils ont compris qu'en fait on avait ce... énormément de choses en nous, en fait. Et voilà, bien des personnages et bien des possibilités. Donc, voilà. C'était ça, voilà.
T'as réussi parfaitement à répondre à cette question.
Ah bon, bah c'est bien, bah, tant mieux.
Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis, donc, pour défendre ces projets, il y a la scène.
Ouais.
Le 26 mai, t'étais au festival Magic Bus au Jardin des Plantes.
Tout à fait.
C'était comment cette expérience? Parce que j'imagine qu'avec le cadre,
ouais.
ça doit être sympa.
Eh bien, j'aime beaucoup jouer en plein air. Je trouve ça très agréable. Y avait du monde, donc c'était sympa. Il a fait beau, donc... ce qui était notable puisque la date avait déjà été décalée une première fois. Et voilà, après, bah, tu vois, c'est entre autres à ce moment-là où j'ai eu des petits soucis techniques qui m'ont un peu déstabilisée et qui m'ont fait un peu me dire que, voilà, les limites du solo, tu vois, quand t'es un peu moment de solitude, problème technique sur scène, et du coup, ça m'a un peu, j'ai pas pris autant de plaisir que je l'aurais voulu, et en même temps, ça fait partie du jeu, voilà.
Parce que là, la formule était en solo.
Là, j'étais en solo, ouais, donc... Et voilà, donc je suis en train de repenser un petit peu mon truc technique, peut-être pour le simplifier et pour être plus avec les gens, en fait, et moins dans ma technique. Et du coup, je pense que le fait d'avoir le trio aussi, ça va me permettre de montrer que j'aime les choses plus avec des énergies fortes et un peu plus complexes, des choses très avec plus d'écriture, avec plus d'improvisation. Et du coup, je vais peut-être m'apaiser sur le solo et assumer de proposer quelque chose finalement de beaucoup plus simple, en fait. Et voilà, peut-être que ça va s'équilibrer.
Parce que tu as fait aussi une première partie de Zao de Sagazan, je ne sais pas comment...
Sagazan, je crois.
Je ne sais jamais comment, je fais une fois sur deux, donc voilà. Yes. C'était en solo aussi ?
Ouais, c'était en solo, c'était en octobre dernier, ouais.
Comment c'est une belle expérience.
Ah ouais, bah c'était une sacrée expérience. Ça me stressait énormément, donc j'ai vraiment dû travailler sur moi beaucoup. Et finalement, en vrai, j'ai eu du plaisir à le faire, vraiment. C'était très challenge parce qu'en fait, tu sais, il y a des grosses productions, voilà. Donc, bon, en plus, j'étais filmée, donc j'avais le stress. J'étais filmée à ce moment-là, donc c'est sur YouTube, et j'avais le stress de bien faire pour être filmée. Mais en fait, au moment de rentrer sur scène, c'est cool, j'ai mis tout ça de côté, et j'étais vraiment en mode « Waouh, il y a beaucoup de gens dans cette pièce !» Et au début, ça m'impressionnait, et puis il y a un truc que chez moi, souvent, la sensation d'adversité, genre d'être face à une arène de personnes, et ben, à un moment, ça me galvanise, en fait.
Ah bah c'est bien.
Oui, c'est bien. Bah ouais, mais j'ai un truc avec l'adversité, je sais pas.
Les gens, ils pourraient rester sous leur couverture, dans leur lit.
Oui, complètement. Mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire jusqu'au dernier moment, quoi. Tu vois, j'étais vraiment, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais en même temps, ça me pousse, ça m'a voilà. Donc, c'était très impressionnant, la pièce. Bon, de toute façon, l'équipe des abattoirs, c'est des... Franchement, ils sont tous adorables. J'étais à la maison, ça fait un an que j'allais là-bas, donc je les adore. Ils m'ont fait un son incroyable, j'étais hyper à l'aise sur scène. Donc c'était trop bien, quoi. Voilà,
Le caractère impressionnant, c'est parce qu'il y avait du monde ou parce que c'était la première partie
d'une artiste
Tu connaissais déjà, qui t'inspire.
Que je connaissais déjà, qui m'inspirait, mais que malheureusement, je n'ai pas trop vu. Mais en même temps, vu comme j'ai vu le nombre de dates qu'elle a faites, en fait, ça ne m'étonne pas qu'elle ne va pas tchatcher avec tout le monde avant ses scènes. Enfin, elle a enchaîné vraiment énormément. Enfin, même physiquement, je trouve ça... Je pense qu'elle devait être éclatée après tout ça, quoi, voilà. Donc du coup, je l'ai juste vue rentrer sur scène et dire à sa mère « Bon, maman, je te laisse Je vais sur scène, quoi. Elle était en tenue et elle est passée, quoi. C'était rigolo parce que, bah voilà, en fait, de toute manière, c'est l'habitude des grandes scènes qui fait qu'au bout d'un moment, l'enjeu que tu mets, il passe, en fait. Il y a un truc, parce que ton spectacle est hyper fluide, c'est hyper rodé. J'ai hâte d'arriver à cet état-là, en fait, de plus jouer pour juste, en fait, bah voilà, tu viens faire de la musique, oui, tu viens faire de la musique, c'est ton travail, c'est cool, ça va bien se passer, tu vois. Voilà, mais en tout cas c'était une super expérience et assez frustrante parce qu'une demi-heure vraiment ça passe très très vite, surtout avec le stress. Moi quand j'ai fini j'étais en mode oh, et les deux dernières j'étais vraiment en train de kiffer, tu vois. Et c'est en mode bon, et en plus tu sais c'est hop, tu te réveilles, il y a le réveil qui sonne, il faut virer de la scène le plus vite possible, t'as genre 10 personnes qui arrivent, toi tu prends tes instruments et tout, tous les décors qui sont enlevés,
oui,
c'est très impressionnant.
Il faut pas être un diesel et mettre 4 morceaux pour se mettre dedans, quoi.
Et ben ouais, c'est ça, il faut arriver à rentrer direct dans la bonne énergie, sachant que de toute manière, hein, t'as toujours le premier morceau où on sait que t'es encore en train un peu de te chercher, voilà. Mais en vrai, j'avais une super écoute, les gens m'avaient bien reçu, et puis c'était blindé, enfin c'était une pièce de 500 personnes blindées, très très à l'écoute, quoi. Donc ça fait partie de très belles expériences de ma vie de musicienne, voilà.
Je pense que c'est une très belle transition pour que tu manies ta flûte traversière.
Ok, je la manie. Alors...
que d'applaudissements. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce petit morceau ?
Ouais. Je vous ai fait une version courte d'un morceau qui s'appelle Murmuration. Et je le joue souvent en rappel. Pour moi, la flûte, c'est l'élément R du concert. Voilà. Et donc, murmuration, c'est ces oiseaux qui sont synchronisés dans l'air, en fait, et qui font des... On ne sait pas pourquoi, mais ils bougent tous de manière synchronisée. Je crois que c'est les étourneaux, si je ne me trompe pas. Et en fait, la science n'a pas toujours expliqué déjà comment ils font vraiment pour ne pas se rentrer dedans. Et pourquoi, en fait, ils font ça ? Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment ? Et quelle est la fonction de cet art, en fait ? Et moi, je pense que c'est un art, en fait. Je pense que les étourneaux, ils font ça pour la beauté du geste, quoi. Et voilà, et c'est... je présente souvent ce morceau en disant que c'est... que voilà, les oiseaux synchronisent et puis qu'ensuite, à la fin, ils partent. C'est la fin du concert.
Du coup, t'es en solo avec la flûte traversière sur scène ?
Là, c'est ce que je fais dans mon solo, ouais. Je sais pas encore si je le ferai en trio, okay. Peut-être.
Ouais.
Et voilà, c'est un solo de flûte que j'ai écrit en pensant à ces oiseaux.
Donc, en plus de ton projet Ezila, t'as aussi une asso,
ouais.
Qui s'appelle Musique Sauvage.
Tout à fait, au pluriel, du coup, les deux mots. Ouais.
C'est ça. Quels sont les enjeux de ton asso ?
Ouais.
Pourquoi ? Comment ?
Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, déjà, ouais,
d'où c'est parti ?
Ouais. Déjà, en fait, je l'ai créé à la base pour porter tout simplement mes projets artistiques. Et donc, du coup, tu vois, louer des salles de résidence, être assurée, enfin, pour ce truc. Et puis après, j'ai commencé à en faire une boîte de production, puisque je produis mes concerts et mes interventions via cette structure. Et puis, parallèlement à tout ça, j'ai fait tout un travail de recherche sur le féminisme et la musique, et qui m'avait d'abord été demandé par la mairie de Cessin en échange d'une résidence. Donc, j'étais venue faire une conférence. Et ensuite, j'ai donné cette conférence slash débat dans plusieurs endroits, notamment pour Cap Beria, pour le restaurant Les Fringantes. Je l'avais donné en ligne aussi. Et donc, dans ces recherches, je m'intéressais à pourquoi il n'y a pas plus de femmes artistes, et notamment musiciennes, parce que dans l'artistique, en fait, on est à 50-50 dans les écoles de musique, tout ça. Et puis en fait, ensuite, y a une espèce d'évaporation, donc on voit... Il y a même plus de femmes, d'ailleurs, dans les écoles.
Oui, j'ai noté 55%.
Voilà. C'est ça. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que la pratique, ça baisse. Les femmes, elles pratiquent moins. Ensuite, elles pratiquent moins en groupe, elles font moins de concerts amateurs. Et ensuite, y a de moins en moins de professionnels. Et ensuite, il y a encore moins parmi les professionnels de personnes récompensées.
J'ai noté 20% des artistes programmés et 10% des artistes récompensés.
C'est ça, ouais.
Ça.
Ouais. Et alors moi, en plus, je suis dans le milieu donc, des musiques actuelles. Donc parmi les trois milieux, donc on a, en musique, c'est un peu fait comme ça en France. Il y a la musique classique, il y a le jazz... Et il y a les musiques actuelles. Mais en fait, le jazz et les musiques actuelles, c'est assez... Mais c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes subventions. C'est beaucoup plus structuré, le jazz en France et les musiques classiques. Et donc, voilà, bon. Et donc, musique actuelle, c'est un milieu qui est quand même pas très subventionné. Il y a beaucoup aussi d'amateurs qui jouent et qui jouent bien pour certains et qui se font pas payer. Donc, c'est quand même compliqué de vivre dans... Et puis, c'est un milieu qui est très privé. Il y a une industrie musicale très forte. Voilà. Donc du coup, bref, en tout cas, il y a peu de femmes. Moi, quand je cherche des instrumentistes femmes pour des projets, franchement, c'est difficile. En plus de ça, voilà, donc parmi les professionnels, on est beaucoup de chanteuses, et donc du coup, voilà, c'est et déjà personnellement, ça me navre. J'aimerais travailler avec plus de femmes parce que ça me plaît, voilà.
Et pas puis, de justification à avoir. Ouais. Hein.
Non, mais ça me plaît. Ça me plaît de travailler avec des femmes. Artistiquement, je trouve que c'est intéressant. Et puis voilà, même des fois, je veux juste la parité. et c'est difficile de l'obtenir voilà, dans des groupes, c'est très compliqué. En plus, il y a les questions des instruments, donc pourquoi on choisit quels instruments, c'est très genré les instruments en France. Voilà, donc j'abordais tout, et puis j'abordais énormément de sujets de toute manière beaucoup plus féministes dans cette conférence, parce qu'en fait, je parle de... Enfin, c'est parler de la musique, c'est un moyen de montrer une application de féminisme sur le sujet de la musique, mais en fait, c'est un sujet sociétal, oui, je dirais même que c'est un sujet quasi mondial. Donc,
oui, c'est beaucoup plus global.
Beaucoup plus global, exactement. Donc, cette conférence, c'était beaucoup un prétexte pour parler de féminisme, et pour parler de féminisme radical, dans le sens où l'idée, c'est quand même de repenser complètement la société, parce que c'est un problème qui est historique, qui est social, qui est économique, qui est symbolique, religieux, etc.
Voilà. Mais parce que tu parles des instrumentistes, mais il y a aussi le côté technique et tout l'envers du décor aussi.
Il y a le côté technique, il y a comment les femmes touchent moins de subventions, comment les femmes utilisent effectivement beaucoup moins les structures, par exemple, créées par les villes, subventionnées, voilà, les salles de répète, mais c'est aussi vrai dans le sport, enfin... Voilà, donc j'aborde, c'est un sujet, c'était une conférence voilà, qui est sur YouTube aussi et qui de toute manière balaye tous ces sujets avec une grande liberté de ton, puisque moi je ne suis pas universitaire et je suis venue avec... voilà, donc j'ai lié l'analyse, les analyses universitaires à des groupes plus de témoignages en fait, où il y a beaucoup d'émotionnel. Parce que souvent on dit que il faut pas se montrer trop émotionnel, c'est la peur un peu de certaines femmes pour pas être jugée, tu vois, trop émotionnelle sur certains sujets. Mais en fait, moi, je pense que déjà, je m'en fous. Je suis une artiste, travailler avec les émotions des gens, c'est mon métier. Et puis, en fait, je pense que au contraire, l'émotionnel, c'est ce qui fait qu'on peut toucher des gens au-delà des choses. En fait, quand on explique ce qui se passe dans la chair, ce que ça fait en fait de ressentir ça, quand les gens peuvent beaucoup plus se visualiser, et c'est ça qui crée le changement pour moi. C'est aussi l'émotion. Voilà, donc j'ai fait ça dans cette conférence. Bref, j'ai fait une grande digression pour dire...
C'est trop bien, on peut la retrouver sur YouTube.
On peut la retrouver sur YouTube, ouais, j'avais... c'est vrai qu'il faudrait que je la republie. Déjà, mes comptes Instagram et mon compte Instagram et Facebook, c'est des comptes publics en fait, et donc à un moment, forcément...
va la retrouver.
On va la retrouver, mais c'est vrai qu'il faudrait que je... Bon, faudrait que je fasse un peu un lien, mais... Voilà, que les gens m'écrivent, allez-y, là, si ça les intéresse.
et donc, l'association, elle s'organise
comment ? Alors, l'association Musique Sauvage, voilà. Donc, et en fait, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir une fonction également sociale dans cet asso. Et donc, là, j'ai été rejointe par une chargée de production depuis janvier et on a réfléchi à comment faire grandir l'asso pour associer ses objectifs politiques de mes prises de conscience. Donc, actuellement... Il y a une partie production d'artistes, autrices, compositrices. Donc ça, c'est production de concerts, production d'albums. Il y a une partie action culturelle. Donc c'est-à-dire que ce sont des femmes artistes qui vont intervenir auprès de femmes dites empêchées. Par exemple, dans des structures, des associations qui font de l'hébergement d'urgence de femmes qui ont été victimes de violences. Par exemple, dans des associations femmes SDF, dans des femmes en détention aussi. Donc, c'est des femmes artistes qui mènent des projets artistiques avec des femmes qui sont, a priori, pas musiciennes ou artistes de métier. Et on monte des spectacles, etc. Donc, ça, on est en train de le développer. Et il y a une dernière partie de l'asso, donc production, action culturelle. Et la dernière partie, c'est le pôle sororité, où là, c'est des femmes artistes qui reçoivent des formations d'autres femmes artistes sur certains sujets très spécifiques qui sont peu ou pas abordés dans d'autres structures d'accompagnement. Par exemple, le corps sur l'espace scénique, la confiance en soi, comment les interactions avec certains hommes, les enjeux de pouvoir dans les groupes, ça c'est des sujets qu'on aimerait bien aborder, c'est en cours. La négociation commerciale, moi j'ai beaucoup d'amis... Donc, musiciennes qui sont extrêmement, extrêmement précaires et qui travaillent énormément bénévolement pour des hommes et leurs projets, alors que, genre, en fait, elles font tout le taf et les hommes se payent et pas elles. Enfin, bref, il y a vraiment un truc de sentiment d'illégitimité assez permanent à travailler, voilà, à bosser entre femmes. Et donc, c'est par exemple, en fait, voilà, mais c'est très large. Par exemple, moi, je vais donner des conférences dans le cadre de ce pôle. Je vais donner cette conférence, la féminisme et musique pour le ciel. Voilà, l'idée, c'est qu'on se forme entre nous. Donc voilà, donc c'est une association dédiée aux femmes, parce que pour moi, c'est un public clairement à part entière. Enfin, c'est un public qui devrait nécessiter beaucoup plus d'aide que ce que l'État fait actuellement, vu l'ampleur du problème dont personne ne prend conscience vraiment. Mais enfin, je trouve ça assez hallucinant. Donc voilà.
Comment faire pour soutenir ton asso?
Eh ben, pour l'instant, on n'est pas encore très visible. Mmh. Donc peut-être. Pour l'instant, ouais, je sais pas quoi te répondre. On va, en fait, on est en train on vient toucher des subventions pour pouvoir être plus visible et aussi créer la dynamique. Donc ouvrir l'œil, peut-être juste suivre les comptes Ezila. Et je pense que en fait, à un moment, j'en parlerai aussi sur ces comptes-là. Ou m'écrire et me demander d'être tenue au courant sur ce sujet. Je commencerai à stocker les adresses mail pour les gens qui sont intéressés.
En tout cas, voilà. C'est une super belle démarche et c'est assez légitime. On arrive un peu à la fin de l'émission. Mm-hmm. Quelles sont tes futures actus pour Ezila?
Eh ben, alors pour Ezila, j'ai un petit concert à la Gélinotte cet été, mais voilà, c'est donc le 3. Tu me prends de court. C'est le 3 août, je crois. Mais j'ai communiqué dessus sur les réseaux. Donc à la Gélinotte. Il y a également à la rentrée, je rends visible une live session qu'on aura tournée avec les trois, enfin en trio, du coup. 3 morceaux pris en direct à la Bajarte sur Grenoble. Et on enregistre à la rentrée Ta violence, donc c'est le titre que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, avec Cœur d'homme qu'on va normalement clipper. Et on est en train de réfléchir au lieu. Donc voilà, et certainement une première partie à la Belle Électrique sur l'année 2024-2025. On ne sait pas encore, on attend, mais voilà, donc là je serai en trio.
Et j'ai complètement oublié, il y a aussi une jam. Au ciel.
Oui, ça y est, là, c'est la petite nouvelle qui vient de tomber. Donc, je vais. Ça rentre complètement en cohérence avec ce que j'ai parlé là, sur les activités féministes de l'asso. C'est que je vais co-animer avec une amie qui s'appelle Julia, donc à la batterie. Et on va co-animer les jams en mixité choisie. Donc, c'est-à-dire femmes et personnes non-binaires, trans, etc. Au ciel et donc l'idée c'est de donner confiance aux femmes pour qu'elles viennent effectivement improviser et qu'elles se rencontrent entre elles et qu'elles prennent confiance sur leur capacité à improviser, à avoir des idées en live, à s'adapter, etc. pour ensuite à un moment, une fois qu'elles auront pris conscience et si elles en ont envie, rejoindre les autres jams qui sont plus mixtes, qui sont mixtes sur Grenoble. Sachant qu'actuellement, quand on dit les jams sont mixtes, elles sont juste blindées d'hommes et c'est quand même très difficile, même quand on a eu cette éducation à la jam, de se faire une place et d'aller jouer, effectivement. Donc actuellement, ce n'est pas. Enfin, c'est mixte dans les. Oui, les femmes peuvent venir, mais en fait, elles n'y sont pas. Donc en agissant là-dessus, c'est agir pour que des femmes. Prennent la parole musicalement. Et... Voilà, j'explique parce que je trouve ça hallucinant le nombre de réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et notamment de certains profs du conservatoire ou de certains collègues qui ont crié à la... qu'est-ce que ça provoque, mais en fait pour moi c'est un outil qui est valorisé par le Conseil à l'égalité femmes-hommes, en fait. C'est un outil qui a fait ses preuves en Suède pour les skateparks, d'avoir des créneaux réservés aux femmes et qu'après, une fois que les femmes ont pris conscience, elles viennent sur le skatepark. Ça a été fait à Bordeaux dans le rugby. En fait, tous les résultats sont super. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle parce que je trouve ça étonnant qu'il y ait des telles levées de bouclier pour quelque chose qui, en fait, est un outil pour effectivement accéder à plus de parité et d'égalité, ce qui est évidemment notre objectif. Voilà.
On est là pour ça, pour expliquer.
Merci Rémi.
si t'as encore des choses à ajouter, tu peux, sinon l'émission touche à sa fin.
Et en fait, je vais vous laisser avec Sauvage, du coup, j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est mon plaidoyer pour aller vivre dans la nature et pour ne pas participer à tout ce qui se passe de mal dans le monde actuellement.
Merci à toi pour avoir accepté l'invitation.
à l'émission.
Merci à Alice, à la technique et à Louis. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve à une prochaine et on vous laisse avec Sauvage.
De Ezila.
Sauvage, 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 sauvage. Sauvage, 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 sauvage. Oh ma mère, voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils ont volé mon temps trop souvent. Et ce contre mon gré.
Sur le 90.8. sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.